Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour amis auditeurs, et nous voici à la fin de ce trimestre avec notre 13e leçon qui couvrira la période du 19 au 25 septembre 2009. Et cette semaine, nous aurons pour titre général
« Une lutte de pouvoir ». Et nous avons également un verset à mémoriser, celui de 3 Jean 11, que je t'invite à lire, Bernard.
« Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. » Et quelles sont les questions clés maintenant?
À qui Jean a-t-il écrit ses lettres? Quelles informations utiles avons-nous sur Gaïos et son caractère? Quelle sorte de lutte de pouvoir se manifestait dans l'Église à l'époque?
Eh bien, les luttes de pouvoir prennent des forces diverses. Qu'elles touchent les États, les entreprises ou même les Églises, elles sont pénibles et parfois violentes. Le grand conflit cosmique, lui aussi, a commencé au ciel par une lutte de pouvoir. Satan voulait obtenir une position et une autorité qui n'appartiennent qu'à Jésus, le Créateur, et non à une quelconque créature. Malheureusement, cet état d'esprit se retrouve même dans l'Église.
La troisième épître de cette série traite de la lutte de pouvoir qui opposait dans l'une des premières églises, d'un côté l'apôtre Jean, Gaïus et Démétrios, et de l'autre, Diotrephe, qui cherchait à asseoir sa suprématie. Une lutte de pouvoir au sein d'une église locale, bien sûr, cela ne nous arrive jamais, n'est-ce pas?
Oui, ça, j'en suis pas aussi sûr. Mais nous allons voir. Nous sommes au dimanche 20 septembre 2009, et là, il s'agira de...
L'Ancien et Gaïos.
C'est l'une des quelques lettres du Nouveau Testament qui sont adressées à une personne et non à une congrégation. Il est intéressant de noter que Jean se présente ici en tant qu'ancien, alors qu'il était un apôtre et non l'ancien d'une église locale. Alors pourquoi fait-il cela? Il peut y avoir plusieurs raisons, dont certaines n'excluent pas forcément les autres.
Tout d'abord, le titre d'ancien renvoie peut-être à la position, à l'âge ou bien les deux à la fois. Ce dernier cas est le plus probable en ce qui concerne Jean. Ensuite, en employant le titre d'ancien, Jean indique que cette lettre n'est pas simplement un courrier personnel, mais une communication officielle. Enfin, ce titre d'ancien met en avant le respect et l'autorité due à celui qui le portait.
Également, Jean fait peut-être le même usage de ce mot que Pierre, qui dans son épître s'adresse aux anciens en parlant de lui-même comme d'un ancien. « Moi aussi », dit-il. Alors qu'en fait, c'est un apôtre. L'emploi du mot « ancien » traduit sans doute aussi l'humilité de Jean et son esprit de groupe, qui sont loin d'être l'apanage de Diotrephe.
Que peut-on apprendre sur Gaïos en lisant 3 Jean, versets 1 à 4 ?
L'ancien à Gaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité.
Eh bien, Jean avait certainement avec Gaïos une excellente relation. Pour la décrire, il utilise par 3 fois des dérivés du verbe grec qui se traduit par « aimer ». Il appelle Gaïos 2 fois « bien-aimé » et lui dit qu'il l'aime sincèrement.
Jean se réjouit tellement de ce que Gaïos marche dans la vérité qu'il en parle 2 fois dans les versets 3 et 4, quand il insiste sur le témoignage élogieux que portent sur lui les frères qui l'ont rencontré. Jean aspire à le revoir bientôt et à lui parler personnellement. Les salutations qui concluent la lettre prouvent que les relations de Gaïos s'étendaient à un cercle plus vaste de chrétiens qui le connaissaient et le soutenaient. Et ainsi s'achève donc cette première journée du dimanche.
Et pour le lundi 21 septembre 2009, il nous est proposé
Gaïos et son ministère au sein de l'Église.
Réfléchissons à la leçon que l'on peut tirer des versets que nous allons à présent lire. Commençons par 3 Jean 5 et 6.
Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Nous lisons les versets 7 et 8.
Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité.
Dans sa deuxième lettre, Jean avait déjà abordé la question de l'hospitalité et demandé aux frères de ne pas accueillir des missionnaires itinérants qui enseignaient des hérésies. Les vrais croyants ne peuvent soutenir les antichrists. Dans la troisième épître, l'apôtre revient sur ce sujet.
Mais cette fois-ci, il souligne que les véritables missionnaires itinérants, eux, doivent être aidés car ils sont totalement consacrés à Dieu et ils prêchent gratuitement l'Évangile. Or, ils ont besoin de nourriture et d'un lieu pour dormir.
Gaïos avait eu l'occasion d'aider et d'accueillir de tels hommes. Ses missionnaires avaient été impressionnés et avaient parlé favorablement de lui à l'Église. Le sujet abordé ici n'est pas seulement celui de l'hospitalité, du gîte et du couvert que l'on offre à quelqu'un. Il s'agit aussi de soutenir l'œuvre pastorale et les missions.
Jean est reconnaissant à Gaïos d'avoir reçu ces personnes comme il l'a fait et d'avoir ainsi prouvé son ouverture d'esprit et son désir de se dévouer pour le progrès de l'Évangile. En ce sens, Gaïos est un exemple pour nous tous. Le Seigneur nous a choisis, nous les croyants, pour annoncer sa vérité au monde entier.
Eh bien, lisons un texte que nous trouvons dans l'Apocalypse 14 et le verset 6 et réfléchissons à son importance. Apocalypse 14, verset 6.
Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple.
En tant que chrétiens en général, et adventistes en particulier, nous devrions prendre conscience qu'il nous incombe de contribuer à la propagation de l'Évangile partout dans le monde. Quelle que soit notre position et notre rôle dans l'Église, nous pouvons faire quelque chose.
Et nous sommes invités à méditer sur la question suivante. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à donner de notre temps, de notre argent ? Ou de nos loisirs, pour que d'autres puissent entendre parler de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la promesse de son retour.
Et voici maintenant le mardi 22 septembre 2009, et là il s'agira encore de...
Diotref.
Alors, voici un premier texte, là, que nous trouvons dans Marc 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et lisons donc maintenant, dans la troisième épître de Jean, les versets 9 et 10.
J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotref, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église.
Après avoir parlé de Gaïos et de son ministère, Jean est maintenant prêt à attaquer le problème que représente Diotref, le responsable de l'Église à laquelle appartient le premier. Cet homme était visiblement à l'origine de nombreux ennuis, et Jean est bien décidé à l'affronter au moment opportun. Lisons encore deux textes, et le premier se trouve dans Matthieu 18, les versets 3 à 6.
En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi... Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Et prenons à présent le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 3.
Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même.
Quel qu'il fût, ce Diotrephe posait un véritable problème. Certains membres d'Église étaient écartés ou même chassés par lui de l'Église parce qu'ils témoignaient envers les autres d'une courtoisie toute chrétienne. Mais ce n'était pas tout. Diotrephe cherchait probablement à devenir le seul responsable de la congrégation, ou du moins le seul qui en ait le contrôle. Sans doute confondait-il goût du pouvoir et zèle pour l'Évangile.
Il rejetait avec arrogance l'autorité de Jean et des autres apôtres, et pis encore, il disait du mal de Jean. Cela devenait dangereux, car Diotrephe semblait vouloir s'affranchir de l'autorité de ceux qui veillaient sur l'ensemble de l'Église. Son attitude risquait de bouleverser complètement la nature même de l'Église et le rôle que les membres y jouaient.
Et si à présent nous posions la question de savoir s'il n'y aurait pas un peu de Diotrephe en chacun de nous ? Faisons notre examen de conscience. Sommes-nous avides de pouvoir ? Critiquons-nous ceux que nous n'aimons pas ? Et surtout, faisons-nous la triste erreur de penser que ce qui est le meilleur pour nous personnellement l'est automatiquement aussi pour l'ensemble de l'Église ?
Que de questions à méditer. Et nous arrivons au mercredi 23 septembre 2009, et là nous allons voir...
Un témoignage rendu à Démétrios.
Nous allons lire un premier texte qui se trouve dans donc la troisième épître de Jean, mais le verset 11.
Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu.
Le verset 11 sert de transition entre ce que Jean a dit concernant Diotrephe et ce qu'il va dire à propos de Démétrios. Le premier responsable, arrogant et ambitieux, est clairement identifié aux forces du mal dont il est l'un des représentants. Le second, Démétrios, est un bon exemple à suivre pour Gaïos. Voyons maintenant le verset 12.
Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrios. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Le Démétrios dont il est question ici est un chrétien d'origine païenne qui apportait son soutien à l'apôtre Jean. Peut-être même a-t-il été son associé et l'un des missionnaires itinérants. Jean désirait probablement qu'il soit présent au moment où il confronterait Diotrephe.
Le principe sans doute le plus important que l'on peut retirer de ce seul verset sur Démétrios est en rapport avec la puissance de l'influence que l'on exerce. Qui pouvait rendre témoignage de la fidélité de Démétrios ? Des personnes très diverses. L'important est de savoir que si nous vivons de façon chrétienne et si nous sommes fidèles, les autres s'en apercevront et ils en rendront témoignage.
Mieux, ils subiront notre influence. En effet, d'une manière ou d'une autre, ce que nous sommes, notre façon de vivre et notre comportement sont porteurs de messages. Un message qui aura donc une influence positive ou négative. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, que nous ne faisons pas d'erreurs ou que nous n'avons pas de progrès à faire.
Cela signifie plutôt que les autres nous observent et qu'ils nous écoutent et qu'ils subissent notre influence. La question qui se pose alors est la suivante : quelle sorte de témoignage donnons-nous ? Et c'est ainsi que nous terminons cette journée.
Et nous arrivons à la journée du jeudi 24 septembre 2009 qui a pour thème et pour titre
crise d'autorité dans l'Église primitive.
Comme nous l'avons vu, il y a donc eu une crise d'autorité dans l'une des églises de Jean. D'après cette lettre, il ne s'agissait pas tant d'une question de théologie que d'un problème d'ambition personnelle, mais aussi d'une évolution dans la façon dont les églises étaient dirigées.
Quoi qu'il en soit, souvent, quand un conflit commence, il concerne une question particulière, puis il s'étend à d'autres sujets. Dans le cas présent, ce sont les doctrines de l'Église qui auraient pu être compromises à long terme.
Nous avons parlé de lutte de pouvoir et de désir d'indépendance. Ce n'est pas là ce que nous propose le Nouveau Testament. Bien au contraire, tous les croyants représentent le peuple et le corps du Christ. Tous font partie du sacerdoce royal.
Tous ont reçu des dons spirituels, des dons nécessaires à l'Église. La distinction entre laïc et clergé est étrangère au Nouveau Testament. Cependant, Dieu appelle certains à assumer des postes de responsabilité dans l'Église en leur accordant ces dons.
Ces personnes devraient être respectées. Un dirigeant n'est pas infaillible et ne devrait pas prétendre l'être. Dans certains cas, il y a même de bonnes raisons de se plaindre de lui. Mais s'il faut affronter un dirigeant, on doit le faire avec sagesse et amour.
Certes, les dirigeants doivent diriger, mais il faut aussi qu'ils soient des bergers et surtout des modèles pour le reste du corps du Christ. On trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament la liste des qualifications nécessaires à un bon exemple.
Dans le Nouveau Testament, les termes d'ancien et d'épiscope ou d'évêque sont encore utilisés de façon interchangeable, même si par la suite, il y a eu un changement radical dans l'histoire de l'Église, avec la création d'une hiérarchie stricte qui est devenue plus ou moins identique à un soi-disant clergé.
Eh bien, voyons maintenant ce que nous apprennent quelques textes sur la façon dont l'Église doit être dirigée. Et un premier texte nous est proposé dans Marc 10, versets 43 à 45.
« Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Continuons avec le livre des Actes, chapitre 6, versets 2 et 3.
Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Un autre texte dans le livre des Actes, chapitre 15 et verset 22.
Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabbas, et Silas, homme estimé parmi les frères. Continuons avec 1 Timothée 4, 14.
Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Et enfin, Jacques, chapitre 5 et verset 14.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur.
Pour le Nouveau Testament, il ne peut être question de chaos et d'anarchie dans l'Église. Il fait mention de dirigeants au niveau local et dans l'Église universelle. Cependant, Jésus lui-même insistait sur le fait que l'autorité au sein de l'Église et des Églises doit être une autorité au service des hommes. Les Églises locales étaient dirigées par un groupe d'anciens plutôt que par une seule personne. Les décisions étaient prises en impliquant l'Église tout entière ou ses représentants.
Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre semaine avec cette journée du vendredi 25 septembre qui nous invite à aller plus loin et selon la tradition avec des textes d'Ellen White. Et nous commençons ainsi. Ceux qui ont tendance à se fier avant tout à leur propre jugement sont en danger. c'est Satan qui, par de savants efforts, cherche à les séparer de ceux qui sont des canaux de lumière et par qui Dieu a œuvré pour bâtir et faire progresser son œuvre sur terre. Négliger ou mépriser ceux que Dieu a choisis pour endosser les responsabilités de dirigeants, en relation avec l'annonce de la vérité, revient à rejeter le moyen qu'il a choisi pour aider, encourager et fortifier son peuple.
Une autre citation d'Ellen White, « Dieu n'a donné à quiconque parmi les adventistes du septième jour un pouvoir absolu pour contrôler tout le mouvement ou n'importe quelle branche de l'œuvre. Il n'a pas stipulé que la direction de la dénomination reposerait sur quelques hommes seulement, mais que les responsabilités seraient partagées par un grand nombre de frères compétents. »
Et continuons notre méditation en nous posant les questions suivantes. Réfléchissons au pouvoir et à la façon dont on l'utilise. Quand ce pouvoir est-il une bonne chose ou une mauvaise chose? Et comment faire la différence entre les deux?
Comment pouvons-nous apprendre des autres lorsqu'ils donnent un bon exemple tout en nous protégeant des déceptions au cas où ils viendraient à chuter?
Comment une église devrait-elle réagir quand un problème surgit au sein de la direction? Comment pourrait-elle traiter le problème avec fermeté tout en témoignant la grâce et la miséricorde du Christ?
Eh bien, c'est ainsi que prend fin notre trimestre d'études. Et avant de vous quitter, chers amis, nous allons vous donner quelques indications concernant la suite de nos études, le dernier trimestre de cette année 2009. Il s'agira de
« Un peuple en route » et nous étudierons le livre des Nombres.
Dans le livre de l'Exode, le Seigneur décrit la naissance d'une nation, l'Exode et le Lévitique en détaillant les lois et règlements. Dans le livre des Nombres, nous abordons une autre dimension de l'histoire d'Israël, celle d'un peuple en route, le peuple de Dieu.
Celui-ci ne se dirige pas au hasard. Il doit aller prendre possession de la terre que Dieu lui a promise. Non pas à cause d'une sainteté qui serait propre à ce peuple ou en raison de ses qualités particulières, mais à cause des paroles de Dieu à son ancêtre Abraham des siècles plus tôt. « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. »
Autre aspect de ce peuple, directement lié à cette promesse, il s'agit d'une nation en armes. Une puissante armée de Dieu, une armée conquérante qui ne peut être vaincue par des ennemis extérieurs parce que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, est au milieu d'elle. À cause de la présence de Dieu, elle n'est pas qu'une armée, elle est une armée sainte. Et c'est aussi en tant que telle qu'elle doit vaincre.
Malheureusement, ce n'est pas exactement ce qui est arrivé. Aux abords de la terre promise, cette armée si puissante, cette armée conquérante, a été vaincue. Non par les Cananéens, mais de l'intérieur. En effet, tant qu'elle vivait par la foi, qu'elle obéissait au Seigneur, qu'elle plaçait en lui sa confiance et respectait ses commandements, Satan savait bien qu'il ne pourrait rien faire contre elle. Il ne lui restait donc plus qu'à se servir d'elle contre elle-même.
Et c'est ce qu'il a fait. Cet avertissement d'Ellen White n'a rien pour nous surprendre. Le voici. Les ennemis du dedans sont plus à craindre que ceux du dehors. Les obstacles qui s'opposent à la force et au succès viennent beaucoup plus de l'Église elle-même que du monde.
Il ne fait donc pas de doute que le livre des Nombres a bien des choses à nous enseigner, à nous, peuple en route, peuple cherchant à rejoindre la terre promise, peuple appelé par Dieu à se lever. Nous apprendrons notamment comment Dieu a organisé le camp et confié des tâches aux prêtres et aux lévites. Nous découvrirons tous les enseignements que recèlent les fêtes et rituels du service du sanctuaire.
Nous tirerons aussi leçon de certains épisodes de la marche du peuple de Dieu. Ses lamentations et ses regrets après avoir quitté l'Égypte. Pays ruisselant de lait et de miel. La lèpre de Myriam, l'expédition des 12 espions, la foi de Caleb, l'intercession de Moïse, la rébellion de Corée et même l'obstination de l'âne de Balaam.
Nous devons savoir en effet que tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ces mots, que l'on trouve dans 1 Corinthiens 10, versets 11 à 13, ne contiennent pas seulement un avertissement, mais c'est aussi une promesse.
Malgré les déboires, les délais et les jugements dévastateurs, la leçon la plus importante peut-être des nombres est que Dieu accomplit ses promesses. Qu'il le fasse par notre intermédiaire, malgré nous ou sans nous, ceci est un autre problème. Ce qui est certain, c'est qu'il les accomplit.
Lu dans le contexte de la croix et de la Nouvelle Alliance, le livre des Nombres nous révèle que Dieu a déjà fait son choix en ce qui nous concerne. La seule question qui se pose encore est celle-ci. Et nous, quel est notre choix en ce qui le concerne?
Le regretté Frank Holbrook a été de 1981 à 1990 directeur adjoint de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Adventistes du Septième Jour à Silver Spring, Maryland, États-Unis. Et c'est lui qui sera l'auteur de nos prochaines études. À bientôt, chers amis.
À bientôt donc.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Be joyful and sing. Jesus is Lord.